semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour un nouveau résumé de l'actualité de la semaine. Si vous nous écoutez à Paris et dans la région parisienne, sachez, c'est presque une tradition, qu'avec l'heure d'hiver, l'émission sera diffusée à 10h10 dès samedi prochain et non plus 9h10. Nous reviendrons à 9h10 avec l'heure d'été. Pas de changement pour vous qui nous écoutez en Afrique. Cette semaine, nous allons vous conduire au Chili, au Liban ou à Sotchi pour le sommet Russie-Afrique grâce au reportage de la rédaction. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Élé Béji et nous allons nous attarder sur la situation en Tunisie après l'élection présidentielle. Et avant d'écouter Élé Béji, allons au Japon. On voyage beaucoup dans cette émission qui a désormais un nouveau couple impérial. La cérémonie d'investiture a eu lieu mardi entre tradition et modernité, en quelque sorte, Tokyo, Frédéric Charles.
L'empereur Naruhito a informé ses ancêtres de son intronisation, à commencer par la déesse du soleil qui a donné naissance à la famille impériale, selon les mythes fondateurs du Japon. La cérémonie s'est tenue à huis clos dans le palais impérial. Le Japon se donne un nouveau couple impérial ouvert sur le monde extérieur, parlant plusieurs langues. L'impératrice Masako, une ex-diplomate, a passé sa jeunesse à l'étranger. Elle parle très bien le français. Mais ce couple impérial moderne, respectueux de l'égalité entre les sexes, Masako ne se tient pas en retrait de son mari, doit se soumettre à des rituels religieux, car dans le Shinto, l'empereur est considéré comme une sorte de pape japonais. Le coût total des cérémonies est estimé à 247 millions d'euros et ça suscite des critiques au sein même de la famille impériale. Imaginez, le frère cadet de l'empereur s'est interrogé publiquement sur le fait d'utiliser autant d'argent public pour des rites religieux, en violation des principes constitutionnels de séparation de l'État et de la religion.
Avant de vous écouter donc, Élé Béji, partons cette fois pour Sotchi, où se tenait ces derniers jours un sommet Russie-Afrique. Il s'est achevé jeudi, ce sommet, reportage de Daniel Valo.
C'est l'objectif de cette photo de groupe réunissant 43 chefs d'État et de gouvernement autour de Vladimir Poutine. Démontrer que le retour de la Russie sur le continent africain est une réalité. Objectif atteint pour le président russe qui veut inscrire cette relation dans la durée.
Pour donner un caractère régulier et systématique aux échanges entre nos États, nous avons décidé de créer un nouveau mécanisme de dialogue. Tous les 3 ans, un sommet aura lieu, tour à tour, en Russie et dans un pays africain.
Tout au long de ce premier sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine n'a cessé d'évoquer les relations historiques nouées à l'époque soviétique. Une référence volontiers relayée par les dirigeants africains, à l'instar de Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville.
Les peuples africains ne remercieront jamais assez le peuple russe pour l'appui déterminant qu'il a porté au mouvement de libération de leur continent. Au moment où s'ouvre cette nouvelle page entre la Russie et l'Afrique, une espérance très forte s'empare du 1,3 milliard de citoyens africains qui accueillent ce nouvel élan de coopération avec optimisme et ferveur.
À l'issue de ce premier sommet, une déclaration commune a été adoptée, dénonçant notamment les diktats économiques et appelant à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie espère profiter de cette offensive de charme pour doubler d'ici 5 ans ses échanges avec l'Afrique.
Semaine d'actualité donc, à écouter aussi sur votre moteur de recherche préféré, le site de la radio www.rfi.fr, l'application RFI 100% radio et à écouter aussi à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour Élé Béji.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir à ce micro. On a déjà conversé ensemble à la radio sur cette antenne il y a quelques années. Nous continuons à le faire. Vous êtes essayiste, fondatrice du Collège International de Tunis et auteur dans la formidable collection Tract chez Gallimard, la toute nouvelle et talentueuse collection Tract. Vous publiez un manifeste, un cri, hein, qui s'intitule « Dommage Tunisie, la dépression démocratique ». Dites-moi, vous êtes sombre, pessimiste, la dépression démocratique.
Oui, mais vous savez, non, je ne suis pas complaisante. Bon, je suis un peu sévère.
C'est pas votre genre, c'est pas votre
voilà.
genre.
Voilà, mais disons que c'est au contraire, c'est pour ne pas renoncer. Vous savez, on est obligé de regarder un peu les choses telles telles qu'on les éprouve et telles qu'on les analyse avec le plus de rigueur et de, comment dire, de sincérité possible pour chercher, en fait, comment trouver une issue au dilemme qui se pose aujourd'hui à nous en matière de construction d'une démocratie post-révolutionnaire. Voilà.
Alors, cette démocratie, cette révolution, LBJ, vous l'avez vécue en direct, vous l'avez faite, vous y avez participé. Vous avez aussi pris du recul, le recul de l'intellectuel nécessaire pour comprendre. Et vous nous expliquez dans ce tract numéro 9, votre avis, votre opinion, votre sensibilité sur à propos de cette révolution. Et vous parlez, dès le début du texte, de la religion démocratique.
Oui, parce que voilà, en fait, il y a deux, en gros, il y a deux axes majeurs dans ce texte. Il y a d'une part le destin, si vous voulez, de la démocratie dans les pays non chrétiens, c'est-à-dire que comment vont se démocratiser les pays qui ne sont pas ni européens ni américains, etc. Et en corrélation avec ce thème, la nouvelle idéologie liée à l'expansion démocratique dans le monde, c'est-à-dire, bon, j'aime pas trop le mot impérialisme, mais moi j'ai appelé ça la démocratie impériale. Qui a décidé le devoir d'ingérence en quelque sorte démocratique, qui n'est pas l'ingérence humanitaire.
Cher à ceux que l'on appelle les néo-conservateurs.
Oui, je ne l'ai pas rattaché à un courant politique parce que je crois que c'est dans l'air du temps. Mm-hmm. C'est-à-dire aller par force, c'est-à-dire donner à la démocratie une valeur absolue ou absolutiste qui oblige tous les autres peuples à se convertir à ce nouveau dieu que j'appelle le dieu démocrate sans tenir compte des histoires nationales. Parce que la démocratie ne peut naître en quelque sorte et ne peut se développer et s'épanouir que dans une nation qui est déjà forgée, qui a déjà un socle historique.
Oui, parce
donc
que...
si on zappe l'histoire de chaque peuple, on a les dégâts qu'on a, c'est-à-dire que la démocratie, enfin l'idéologie, la démocratie impériale militaire qui est intervenue dans les pays arabes avec destruction de l'Irak, la Syrie, la Libye, etc., est devenue une utopie meurtrière.
Ah, vous écrivez même, exporter la démocratie par la guerre s'avère le pire fossoyeur de la démocratie elle-même.
Oui, parce que qu'est-ce que vous voyez ici chez vous ? Bien, c'est le retour. C'est-à-dire, vous exportez la démocratie, mais vous importez la criminalité fanatique. Vous importez la guerre sur votre territoire. C'est-à-dire, les démocrates ont cru... Moi, je ne crois pas... Il y a des théories qui disent que c'est les ressources pétrolières. Moi, je ne crois pas trop à ça. Je crois que vraiment, les démocrates sont à ce point imbus, en quelque sorte, de leur civilisation, parce qu'on retrouve un peu comme une sorte de démocratiser les sauvages, comme avant, on civilisait les indigènes. On trouve un peu cette connotation. Ils sont tellement imbus de la valeur, et de leur, comme ils disent, nos valeurs, notre progrès, notre civilisation, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont absolument pas anticipé le boomerang, le retour en boomerang sur leur territoire.
Et parmi ce retour, effets de ce retour de boomerang, LBJ, c'est l'islamisme.
Oui, bien sûr. Parce que quand vous venez en occupant, même au nom d'une valeur qui s'appelle la démocratie, comme avant au nom de la civilisation, ça n'avait pas marché avant. Les occupants ont été chassés, tout l'empire colonial s'est effondré. Donc pourquoi voulez-vous que ça marche ? Quand une démocratie vient de l'extérieur, qu'elle est imposée, elle va tout de suite être combattue au nom d'un patriotisme religieux, au nom de... C'est-à-dire qu'en fait, ils ont en quelque sorte donné à l'islam une valeur patriotique qu'ils n'avaient pas au départ. Et donc, vous avez maintenant sur votre sol une autre forme de nation, si j'ose dire, que la nation française, qui est la nation islamique, qui est venue s'importer sous forme de... Et en fait, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est, si vous voulez, les innocents les citoyens français heureux de vivre, qui sont attablés aux tables des cafés, qui vont dans des clubs de musique, et qui tout d'un coup deviennent en quelque sorte des cibles non armées, non protégées, des espèces de fantassins désarmés, qui sont trahis en quelque sorte par leurs élus, qui ne leur ont pas expliqué pourquoi.
C'est en quelque sorte la démocratie attaquée par des fanatiques, fabriquée par ce désir d'exporter la démocratie, si je vous résume.
Oui, il n'y a pas que... Bon, c'est une des grandes causalités, hein, parce que bon, le fanatisme a aussi d'autres sources, bien entendu. Mais ce que je voulais, surtout l'idée qui m'importe, parce qu'après on va comprendre le lien avec la Tunisie, c'est que... J'ai été élevée dans le rêve de la paix perpétuelle de Kant, en quelque sorte, grâce à la démocratie. Parce que j'ai vécu en Allemagne après la guerre. Mon père était en poste là-bas. Et j'ai vu la puissance de paix de la notion de démocratie. J'ai vu la puissance de la paix européenne. Et que la démocratie était un rêve de paix. D'accord ? Et je me suis demandé comment il se faisait que la démocratie devienne un cauchemar de guerre. Par quel mécanisme? Bon, alors je vais pas tout dire, hein, pour ne pas, comme ça les gens iront. Voilà. Je vais pas tout raconter. Et voilà, c'est à peu près cette espèce de... Et alors, la dépression, en fait, c'est un peu la dépression à Tunis, mais je pense que la dépression frappe les pays européens à cause de ça. J'ai pensé d'ailleurs, le mot dépression est venu surtout en pensant à la démocratie en Europe, c'est-à-dire qui touche la fin d'un cycle, qui tombe en mélancolie. Et cette espèce d'inquiétude sourde, cette espèce d'angoisse de la violence dans la rue, qui maintenant est devenue monnaie courante et beaucoup plus grave que quand moi j'étais étudiante à Paris. Ça n'existait pas.
La mélancolie démocratique, ça rappelle un titre, oui, un livre absolument. Célèbre, oui. Les BJ. Alors prenons la direction d'un pays que vous connaissez bien, la Tunisie, et d'une capitale que vous connaissez parfaitement bien, Tunis. Le nouveau président de la République, Kais Saied, a prêté serment mercredi devant les élus du Parlement. Correspondance de Lilia Blaise.
Une révolution culturelle. C'est ainsi que Kais Saied a qualifié son élection atypique, faite pratiquement sans campagne électorale. Dans son discours d'investiture, le nouveau président a voulu se montrer solennel et rassurant. Selon Ziad Ladari, ministre du Développement et membre du parti Ennahda, il est attendu au tournant.
C'est le défi de demain, c'est comment transformer toutes ces belles paroles en actions et en projets concrets qui vont régénérer le lien de confiance entre les Tunisiens et les institutions et qui vont permettre aux Tunisiens de croire que le changement qu'ils ont réclamé dans les élections va devenir une réalité tangible et concrète dans leur quotidien.
Un changement qui se traduit par le passage d'un état de droit à une société de droit, selon Kais Saied, et qui mobiliserait tous les Tunisiens déjà appelés à faire don d'une journée de travail pour résorber l'endettement de l'État. Kais Saied s'est également montré ferme sur la corruption, un élément important selon Mohamed Abou, secrétaire général du parti Le Courant démocrate.
Il a parlé aussi d'une autre manière de combattre la corruption, il a parlé de la force de l'État. Nous sommes preneurs nous-mêmes parce qu'on veut un État fort et qui respecte les droits de l'homme.
Le nouveau président favorable à la peine capitale a d'ailleurs été appelé par l'ONG Amnesty International à maintenir le moratoire sur la peine de mort en vigueur en Tunisie et à s'engager en faveur des droits humains.
Alors le nouveau président a parlé respect de la loi, égalité entre tous les Tunisiens, renforcement des droits des femmes. Vous avez entendu les interlocuteurs interrogés dans cette correspondance parler de transformer de belles paroles, de renforcer le lien de confiance. C'est aussi votre avis?
Je vais dire deux mots là-dessus pour ensuite revenir à la généalogie en amont. Comment est venu en quelque sorte, d'où vient? Parce qu'il vient de quelque part, j'ai entendu dire c'est un ovni, etc. Non, il a une histoire qui est inscrite dans la révolution elle-même. Donc, ce que j'ai remarqué, moi, dans le dernier discours, c'est que, d'abord, il est symbolique, c'est un discours symbolique, hein. C'est-à-dire que c'est pas un discours factuel. Bien entendu, d'ailleurs, tous les discours de président,
sont des discours solennels.
avec une sorte de construction symbolique d'un idéal, un idéal de soi, ce que j'appelle l'idéal de soi. Bon. Il n'y a pas d'allusion à l'islam hein, dans son discours. Donc c'est quelque chose... Voilà. Dans le non-dit, voilà, j'ai plus regardé un peu le non-dit. Dans ce qui est dit, il y a la notion de peuple qui revient tout le temps. C'est-à-dire, donc, à la place donc, du référent islamique, le référent souverain, populaire, c'est-à-dire...
Classique.
Le peuple souverain. Il y a aussi l'idée de justice. Parce que vous savez qu'il y avait deux candidats. L'un... qui avait décidé de combattre la pauvreté, bon, avec toutes les péripéties qu'il a subies, bon, et qui a perdu. Et l'autre, lui, qui a parlé de l'idée de justice. Donc on se rend compte que dans la société tunisienne, c'est l'idée de justice qui l'a emporté sur l'idée de lutte contre la pauvreté, ce qui est très intéressant. C'est-à-dire que c'est la valeur morale qui l'a emporté sur la valeur matérielle. Ça aussi, ça m'a frappé. Je crois donc que, je l'ai dit d'une autre manière, je crois qu'il incarne, vous savez ce que Orwell, j'aime beaucoup Orwell.
J'aime vous beaucoup. Aussi.
Ah oui, vous aussi. Bon, oui. Alors tant mieux. Donc vous allez comprendre tout de suite ce que je vais dire. J'aime bien la notion de décence commune. Common decency. C'est-à-dire l'homme ordinaire. Commune, voilà, en fait, c'est l'homme ordinaire qui porte en lui la structure, le code moral qui ne change pas. Et je crois qu'il appartient un peu à cette catégorie, c'est-à-dire qu'il fait entrer au plus haut niveau de l'État. Alors ça va devenir un homme extraordinaire. Donc est-ce qu'il va perdre ce code de la décence ordinaire? Et deuxièmement, il y a la nature utopique. C'est un discours, moi, que je rapprocherai, parce que j'étais en train de lire Saint-Simon, que je connais pas très bien. Je connais le Saint-Simon, le chroniqueur de la cour, mais je connais pas bien la pensée du le saint-simonisme. Et il y a quelque chose, par exemple, qui m'a frappé. D'abord, la notion de démocratie directe, mais surtout, Saint-Simon était très populaire, je sais pas si vous le savez, dans les grandes écoles.
Et c'est d'ailleurs
et lui est populaire dans
chez
les universités. Voilà. Donc, oui. Surtout dans les universités, chez les étudiants instruits. Attention, voilà. Et ça m'a paru assez intéressant, voilà. Ça me paraît intéressant
à noter.
À noter et à suivre et à, voilà.
Sept jours dans le monde.
Et les BJ, partons maintenant pour le Chili, un autre pays où le peuple s'exprime en ce moment. Des milliers de personnes ont en effet manifesté mercredi à Santiago, la capitale, et dans d'autres villes du pays au premier jour d'une grève générale. Le Chili connaît depuis le 18 octobre une explosion de colère qui se traduit par des actions de protestation et de pillage même. Correspondance d'Aude Villiers-Moriamé lundi après un changement de ton du président chilien.
Le président chilien a changé de ton lundi soir, quelques minutes après l'entrée en vigueur du couvre-feu mis en place pour la troisième nuit consécutive à Santiago. Sébastien Piñera a reconnu qu'il avait eu des mots durs ce week-end lorsqu'il avait déclaré « nous sommes en guerre contre un ennemi puissant ». Des propos qui étaient très mal passés auprès des Chiliens qui ont de nouveau manifesté en masse ce lundi dans l'ensemble de manière pacifique. Certains manifestants tenaient des pancartes « nous ne sommes pas en guerre » et appelaient le gouvernement à prendre des mesures concrètes contre les inégalités sociales dans le pays. Ce lundi soir, Sébastien Piñera a donc annoncé qu'il allait adopter une série de réformes pour améliorer la vie des Chiliens. Il a par exemple mentionné la baisse du prix des médicaments sans donner plus de précisions. Le président a aussi annoncé des réunions avec les représentants de l'opposition dans les prochains jours. Des annonces qui ne semblent pas pour autant avoir apaisé le mouvement social. De nouvelles mobilisations sont prévues ce mardi dans la capitale chilienne.
Et les manifestations ont donc continué. La situation est à suivre évidemment dans nos journaux. Notez aussi qu'une grève générale marquée par de nouveaux incidents a débuté mercredi en Bolivie, cette fois pour contester le dépouillement de l'élection présidentielle de dimanche dernier, qui donne quasiment vainqueur au premier tour le président sortant Evo Morales. Un processus de coup d'État est en cours, disait mercredi Monsieur Morales. Est à suivre également dans nos rendez-vous d'information. Et dans la rubrique insurrection populaire, en quelque sorte, partons maintenant pour le Liban, qui connaît depuis quelque temps une crise sociale et politique de première grandeur. Le soulèvement populaire a pris une nouvelle tournure mercredi avec l'apparition en masse de l'armée autour de Beyrouth, mais la foule a pu poursuivre pacifiquement sa mobilisation pour le 7e jour consécutif, et ce, malgré des annonces faites par le Premier ministre Saad Hariri. Beyrouth mardi, Laure Stéphan.
Dans le centre de Beyrouth, les slogans scandés ou chantés n'ont pas changé après l'allocution de Saad Hariri. Le peuple veut la chute du régime. Rada fait partie de ceux qui n'ont pas été convaincus par les annonces.
Ça ne suffit pas, on ne fait pas confiance. Cette fois c'est différent, on ne veut plus d'eux, c'est tout. On ne quittera pas la rue.
Ali, lui, est redescendu manifester avec sa fiancée à peine après avoir entendu le Premier ministre parler.
Il a fait des promesses, mais les Libanais sont habitués aux promesses. Les dirigeants n'ont rien fait pour améliorer la situation au Liban. On ne sait pas si le mouvement pourra apporter du changement, mais mieux vaut essayer plutôt que de rester chez soi et de se résigner à la réalité.
Rarida, elle aussi, est sceptique. Toutes les générations sont présentes dans la contestation, mais les jeunes forment le gros des troupes et pour cette étudiante, leur message est clair.
Les jeunes en ont assez de la situation au Liban. Cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu de changement dans ce pays et c'est ce qu'attendent les jeunes, du changement.
Cinq jours après son début, le mouvement n'a toujours pas de leadership et veut éviter toute exploitation politique malgré les tentatives de certains partis.
Les BJ, on va reparler de la Tunisie dans un instant et on va vous redonner la parole dans quelques minutes. Mais je voudrais que nous accueillions Muriel Malouf. Bonjour Muriel.
Bonjour Pierre-Edouard.
Vous êtes journaliste au service culture, on le sait. Vous étiez à Beyrouth ces derniers jours pour couvrir, parler d'une exposition dont vous avez d'ailleurs parlé avec Jean-François Cadet hier. Et on a besoin de comprendre ce qui se passe parce que vous avez aussi vécu ces derniers jours importants. Pour la première fois, tout le pays était uni.
Oui, tout à fait. C'est un soulèvement sans précédent. La dernière fois qu'il y a eu une grosse manifestation comme ça au Liban, c'était en 2005, le 14 mars 2005. C'était suite à l'assassinat du premier ministre de l'époque, Rafik Hariri, qui est d'ailleurs le père du premier ministre d'aujourd'hui. Et tout le monde était dans la rue, dans le centre-ville, tout le monde, sauf un grand absent. C'était la communauté chiite qui, à l'époque, était bien sûr fidèle au Hezbollah, le Hezbollah grand allié de la Syrie, parce que parmi les premières revendications des manifestants à cette époque, c'était la sortie de l'armée syrienne d'occupation du Liban. Et d'ailleurs, l'armée syrienne était sortie suite à ce soulèvement. Et alors aujourd'hui, pour la première fois, les Libanais sont dans la rue, toute confession,
sous le drapeau libanais.
Toute confession confondue avec un seul étendard, comme vous le dites, le drapeau libanais. Pas de manifestation religieuse ni confessionnelle. C'est bien la première fois. Et d'ailleurs, chacun conspue son propre leader. Et ça, c'est une chose qu'on n'avait pas vue auparavant. Et même si des partisans du Hezbollah ou du parti Amal, qui est son allié, dirigé par Nabih Berri, sont venus provoquer les manifestants, que ce soit dans le centre-ville de Beyrouth ou dans le sud, qui est un peu le lieu de la communauté chiite, rien n'y a fait, les manifestants sont revenus.
Alors on a beaucoup parlé, Muriel, de la taxe sur les communications par voie numérique, WhatsApp pour ne pas le cacher. Il y a en fait deux causes qui expliquent ce mouvement.
Exactement. En fait, l'impôt sur WhatsApp, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
C'est important de le souligner parce qu'il y a une énorme communauté libanaise dans le monde entier et WhatsApp permet par définition de joindre toutes les familles qui sont réparties
Exactement.
Dans le monde entier.
Exactement,
oui.
Gratuitement.
Gratuit.
Les familles libanaises, on le sait, sont disséminées partout dans le monde. D'ailleurs, la diaspora libanaise est plus importante que la population libanaise dans le pays. Et donc, c'était un peu la dernière bouffée d'oxygène. Et on se rend compte aussi combien ces responsables politiques sont déconnectés de la réalité. Ils ont demandé $6 par mois. Le ministre de la Communication a demandé une taxe de $6 par mois aux usagers du WhatsApp. Ils ne se rendent pas compte que $6 par mois, c'est énorme pour une certaine frange de Libanais dont le quart de la population vit sous le seuil de la pauvreté.
Alors il y avait une autre cause plus lointaine, mais on n'a pas le temps de s'y attarder, c'est les incendies de forêt qui ont eu lieu il y a quelques semaines.
Oui, les incendies qui ont pris dans plusieurs endroits au Liban, qui ont saccagé des forêts. Et là, on s'est rendu compte de l'incurie du gouvernement. C'est-à-dire que les hélicoptères qui devaient être utilisés pour éteindre ces feux n'ont pas pu bouger de leur stationnement, car il n'y avait pas eu de maintenance sur ces hélicoptères durant ces dernières années. On a dû faire appel à l'île de Chypre, à côté, pour avoir des secours, ce qui est quand même très humiliant pour les Libanais. Les bénévoles se sont attelés à l'extinction des incendies, mais aussi avec les pompiers et les forces de l'ordre qui l'ont fait parfois à visage nu, sans aucun équipement. Et ça finit aussi par faire monter la colère.
Alors, la colère qui s'est manifestée d'abord sur le plan social, mais qui a glissé très rapidement sur le plan politique, Muriel Malouf, dans une intervention télévisée un peu surréaliste, je crois qu'on peut dire les choses comme ça, le président Michel Aoun a opposé jeudi une fin de non-recevoir à la principale revendication du mouvement de contestation, c'est-à-dire le départ de l'ensemble de la classe politique. On a l'impression que ce mouvement a presque atteint un point de non-retour, en fait.
Mais en fait, il y a un slogan qui revient dans ces manifestations depuis 10 jours. En arabe, en libanais, c'est « Kulloniyan et Kulloun », tous sans exception. Les manifestants sont unanimes, en une seule voix, ils demandent que tous les politiques dégagent. Alors, on est là encore sur ce même mot, dégage, le dégagisme. Mmh. Ils n'ont plus du tout confiance dans ce gouvernement qui, là, cela fait 3 ans hein, qu'il exerce, mais cela fait 30 ans que la guerre civile est terminée au Liban. Les infrastructures sont toujours déficientes, les Libanais ne voient aucun changement. Et ces politiques sont surtout extrêmement corrompus, mettent l'argent de l'État dans leur poche. Et ce système confessionnel au Liban est considéré un petit peu comme le synonyme de cette corruption. On n'arrête pas de brandir l'arme confessionnelle, le clivage religieux, comme une peur qu'on met sur la tête des Libanais. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur. La barrière de la peur est rompue. Ils ne veulent plus de ce système confessionnel synonyme de corruption.
Il faut enfin souligner dans ce bref point, je vous remercie de participer à cette émission, Muriel, le rôle des femmes dans ce mouvement.
Absolument, les femmes sont vraiment en première ligne. Alors, je vous donne juste un exemple. On parlait tout à l'heure des provocateurs qui essayent de semer la zizanie dans les manifestations. Il y en a qui ont envoyé des pierres sur les forces de l'ordre. Et très vite, en l'espace de quelques heures, des femmes se sont regroupées sur WhatsApp, toujours, une communauté WhatsApp de femmes. Elles étaient jusqu'à 300 et ont formé un rempart entre les provocateurs et les soldats et les forces de l'ordre pour éviter que les manifestations ne dégénèrent. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.
Et c'est pour ça que l'on voit fleurir sur les réseaux sociaux des hommes arborant un t-shirt sur lequel il est marqué « Moi, je ne crains rien, ma femme est libanaise ».
Oui, et d'ailleurs, il faut noter aussi que l'humour est très présent dans ces manifestations, et aussi un esprit festif, parce que ça se fait dans la joie, la paix et la joie.
Et les BJ, vous êtes sensible à ce que vient de dire.
Oui, c'est formidable. Enfin, c'est très intéressant parce que le mot dégage. Hein, le 14 janvier, c'est le mot qui a dégagé justement. Donc ça a fait le tour du monde et c'est 10 ans après. C'est assez extraordinaire. Mais
il faut rappeler la révolution tunisienne. La mort de Bouazizi, voilà. C'est décembre 2010.
Voilà.
C'est
alors
la révolution,
justement, la question que j'étais en train de me poser, c'est bon, le facteur déclenchant, c'était WhatsApp, si j'ai bien compris.
Oui. Ouais.
Bon, tandis que nous, le facteur déclenchant était beaucoup plus tragique, puisque c'est l'immolation d'un homme. Mais c'est très intéressant aussi parce qu'il s'est immolé devant ses proches et tout son village, sa ville. Il a brûlé, il est mort, pas tout de suite, mais après. Et ça a été le facteur déclenchant. Donc il y a eu une espèce de compassion collective. Il y avait quelque chose d'assez pathétique et dramatique les premiers jours. Bien, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est pour nous la révolution non confessionnelle. C'est très intéressant. C'est-à-dire une révolution non religieuse. Voilà. Donc, pour rattacher à ce que je disais tout à l'heure, la démocratie dans les pays non chrétiens ne peut pas gagner par la guerre, ne peut pas être instituée, imposée par la guerre. Là, je dirais que c'est la première révolution, celle du 14 janvier. Alors, peut-être celle du Liban, ça va être la deuxième. Celle du 14 janvier, c'est une révolution non religieuse. C'est-à-dire, il n'y a aucun guide spirituel. Bon, c'est une population musulmane, hein, c'est pas une population confessionnelle, mais pas au nom d'Islam, pas au nom du Coran, pas au nom de Dieu, pas aucun leader spirituel, aucun verset, aucun texte, rien. C'est une révolution sans doctrine, sans leader. Donc là, il y a quelque chose d'assez similaire. D'un peuple non chrétien. Pour rattacher aux dégâts de la démocratie par la guerre, j'en tire la conclusion l'émancipation ne peut venir que de soi. Être émancipé par la volonté d'autrui aboutit à une forme d'esclavage, de refus et de résistance, à la limite à la démocratie elle-même à ce moment-là, si elle est imposée par la force. Donc l'exemple tunisien illustre la première partie de mon livre, qui consiste à dire que une révolution doit venir de sa propre histoire, à sa propre généalogie. Elle doit, en quelque sorte, exprimer de manière, à un moment donné dans l'histoire, eh bien, la liberté fait son apparition. La liberté ne peut pas être un costume qu'on vous met par force, surtout pas avec les bombes étrangères, des avions, une armée d'occupation.
Alors, notez aussi dans l'actualité internationale, parce que nous sommes là pour résumer aussi l'actualité internationale, et même surtout que le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la levée des sanctions imposées mi-octobre à la Turquie, après le lancement de l'offensive militaire d'Ankara contre les Kurdes en Syrie. La Turquie a annoncé mardi soir qu'elle ne reprendrait pas son offensive militaire contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie, après le retrait de ces dernières des zones frontalières. Un mot sur l'actualité française maintenant et les BJ. Je voudrais vous faire écouter ce que disait Emmanuel Macron jeudi lors d'un entretien à une chaîne de télévision de La Réunion où le président français effectuait une visite. Il a parlé voile et laïcité.
Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. C'est ça la laïcité. Le port du voile dans les services publics, à l'école, quand on éduque nos enfants, c'est mon affaire. C'est ça la laïcité. Ça veut dire que quand on est dans un espace où le service public est rendu, il y a un devoir de neutralité des agents. Quand on éduque nos enfants, et c'est pour ça que ça vaut pour l'école maternelle, l'école, le collège, le lycée, et pas pour l'université, on demande à ceux qui les éduquent comme aux enfants de ne pas avoir de signes religieux. Je n'aime pas d'ailleurs le débat qui consiste à ne stigmatiser qu'un seul signe religieux. Pas de signe religieux ostentatoire, parce que on est en train d'élever l'enfant et de lui permettre de devenir un individu libre, raisonnable, éduqué. Et après, ce qui se passe dans l'espace public, c'est pas l'affaire de l'État et du président de la République. La laïcité, ça n'est pas cela. La laïcité, c'est précisément de permettre de croire et de ne pas croire librement.
Nous sommes toujours en compagnie de l'EBJ qui vient d'écrire « Dommage Tunisie, la dépression démocratique » dans la collection Tract. Il s'agit du numéro 9. Vous ne pouvez pas ne pas réagir à ce que vient dire Emmanuel Macron et l'EBJ.
Oui, parce que bon, j'ai beaucoup parlé, j'ai déjà beaucoup parlé sur le voile. Je pense que même si on ne souhaite pas le voile et si on le critique, et moi je fais partie de celles qui l'ont critiqué, j'ai même consacré un livre en 2011 qui est Derrière le voile.
C'est à cette occasion que nous avions fait ensemble une émission.
Voilà, je dis toujours, il ne faut pas juger celles qui le portent. Bon, pourquoi ? Parce qu'on est rentré en fait dans une nouvelle, ce que j'appelle la néo-démocratie, dans laquelle la religion, en fait, en deux mots, pour comprendre ce qui se passe, si vous voulez, c'est pour ça que le cas tunisien est exemplaire. Et je pense que les Européens ou même les Français peuvent en tirer quelques enseignements. Parce que, en fait, le paradoxe, si vous voulez, c'est que, contrairement à l'histoire européenne où le travail des Lumières, la philosophie des Lumières, le désenchantement du monde, la sortie du religieux, si j'ose dire, qui a été tellement bien décrit par Marcel Gaucher, voilà, oui, a permis ensuite la constitution de la démocratie. La démocratie s'est constituée, comme dit Marcel Gaucher, c'est une démocratie métaphysique. Sur cette neutralité métaphysique, là il parle de neutralité de l'État, mais c'est la neutralité de la personne elle-même, c'est-à-dire qu'il parvient à se détacher de sa croyance et donc séparer le religieux du politique. Donc c'est comme ça que la démocratie a pu se construire. Or nous, on est dans un cycle totalement inversé de l'histoire. C'est-à-dire que la démocratie va précéder, en quelque sorte, la renaissance religieuse, c'est-à-dire qu'on va être obligé de vivre avec l'exemple tunisien, et je crois que là c'est vraiment un laboratoire, un cas typique, où la démocratie est née le 14 janvier, enfin en tout cas le processus a commencé de manière très très forte dans les institutions, mais en même temps on voit la vitalité de l'islam politique qui a droit de cité maintenant, conformément à l'idéal démocratique lui-même qui dit qu'on ne peut plus exclure personne, croyant, non-croyant, avec une acception politique de la religion qui fait son entrée, en quelque sorte, dans la vie politique, qui a un parti, qui a des ministres. Donc, on entre dans une espèce de cohabitation historique. Et c'est là où on va d'ailleurs avoir des sentiments de haut et de bas. Parce qu'il y a toujours cette crainte que si la nation et la religion, qui va l'emporter? Est-ce que tout d'un coup, si vous voulez, le parti religieux ne va pas se mettre à détruire en quelque sorte l'idée nationale elle-même, de l'affaiblir, de la ruiner, et devenir cette espèce de justement internationalisme communautaire mondial qui fait que la Tunisie va se dissoudre et disparaître dans une identité religieuse qui n'est pas la sienne. Donc, avec cette espèce d'abolition de la nation. Donc, il y a cette bagarre et qui est, c'est-à-dire, au fond, une potentialité toujours de guerre civile.
Et
qu'on a toujours évité jusque-là.
Vous vous posez aussi la question, et les BJ, être un musulman se révélera-t-il plus fort qu'être un intégriste?
Oui. Ça, c'est une question, vous faites bien de dire ça, parce que c'est quelque chose qui me travaille de l'intérieur. Parce que je pense qu'en fait, si on arrive intellectuellement, et ça, les Français pourront le comprendre parce qu'ils ont de grandes traditions chrétiennes aussi, n'est-ce pas? Si on arrive à séparer la tradition de l'oppression religieuse, parce que dans l'islam, tout le monde parle l'islam, l'idéologie, le fanatisme, Allahu Akbar, la prière, non, il y a toute la tradition profane. C'est une civilisation, c'est une culture, parce qu'il y a l'islam profane, ce que j'appelle, et l'islam religieux. Moi, j'ai été élevée dans un cadre d'islam profane, avec des traditions plutôt épicuriennes même, hédonistes, avec un goût, une sorte de d'esthétique de l'existence, la place du corps, des rapports extrêmement harmonieux en famille, une sorte de... Bon, moi, j'ai été élevée très librement, mais il y avait dans nos traditions cette tradition de liberté en Tunisie, hein, depuis
ouais,
le 19...
Voilà, Tunisie,
voilà
ouais.
En Tunisie. Bon, et donc, je crois que si on arrive dans sa tête et dans la société à séparer l'idée, cette tradition, c'est celle qui résiste le mieux à la violence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la piété, c'est la paix intérieure des gens pieux qui a été la plus forte arme de résistance. Et non pas, contrairement à ce qu'on croit, les minorités laïques qui, bien sûr, se sont élevées, parce que, malheureusement, ce sont des penseurs laïcs qui ont été assassinés. C'est là, je dis, dommage. Parce que dès la troisième année de la Révolution, on a eu nos penseurs laïcs les plus courageux qui ont été assassinés, n'est-ce pas? Et donc en fait, Bouazizi, qui était un saint, est en train de se transformer. Il y a d'autres Bouazizi, c'est-à-dire d'autres vendeurs ambulants, qui deviennent des criminels. Donc vous voyez, il y a ce passage entre la sainteté de Bouazizi qui s'est immolé, qui n'a pas sacrifié ses concitoyens, et d'autres qui acceptent. Et c'est pourquoi que les Tunisiens sont choqués. C'est parce qu'ils disent, un Tunisien tue des Tunisiens, au nom de la religion. Donc, et je crois que chez les gens pieux, ça c'est une résistance qui ne passera pas. Enfin, c'est quelque chose qui aura beaucoup de mal à passer.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez bien entendu à nous écrire à la page Une Semaine d'Actu de Facebook également. Je salue comme chaque semaine quelques auditeurs africains tirés au sort presque, comme dans chaque émission. Un salut à Fabrice à Yaoundé aujourd'hui, à Oumar à Bamako, qui s'interroge sur l'utilité du sommet Russie-Afrique dont nous allons parler dans un instant. Bonjour à Fulciano, à Cotonou, à Augustin, à Dakar, à Moutari, à Zinder, au Niger, à Pierron Kelomonia, à Boaké et à Johnny Godson, à Lomé.
Une semaine d'actualité.
Et avant de repartir pour la Tunisie avec vous, Hélène, reparlons maintenant du sommet Russie-Afrique qui se tenait donc cette semaine à Sotchi, en Russie. Nous en avons parlé au début de ce numéro d'une semaine d'actualité. Ce sommet a été l'occasion pour un certain nombre de chefs d'État africains d'exprimer leur demande d'aide à Moscou, d'aide militaire notamment, tel le centrafricain Faustin Archange Touadéra en quête d'armes lourdes. Reportage de notre envoyé spécial Florence Maurice.
Mi-septembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a considérablement assoupli l'embargo sur les armes à destination de la Centrafrique en autorisant à nouveau les livraisons d'armes légères dans le pays. Avant cela déjà, Bangui a pu bénéficier de plusieurs dérogations pour recevoir des cargaisons d'armes légères de la part de la France et de la Russie, qui a achevé récemment sa deuxième livraison. Mais pour Bangui, ce n'est pas encore assez. Le président Touadéra souhaite passer à la vitesse supérieure et demande désormais à Vladimir Poutine de lui fournir des armes lourdes.
Les armes plus lourdes sont nécessaires pour créer des forces efficaces l'Arabie centrafricaine. Nous croyons que les partenaires russes nous livreront aussi des moyens létaux au-delà de 14,5, ainsi que des véhicules de combat, d'infanterie, des mortiers, permettant la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité.
L'argument centrafricain est toujours le même. Selon Bangui, l'embargo des Nations Unies ne peut se justifier dans la mesure où les groupes armés, eux, n'ont aucun mal à le contourner.
Les sanctions imposées en 2013, quand il n'y avait pas de gouvernement légitime en RCA, sont maintenant dirigées uniquement contre les autorités légitimes, parce que les groupes armés reçoivent les armes lourdes illégalement en contrebande.
Reste que certains observateurs s'interrogent sur cet appétit de Bangui pour des livraisons d'armes en pleine négociation pour l'application d'un accord de paix signé au début de cette année. Un accord de paix qui par ailleurs fait l'objet de nombreuses violations.
Le Burkina Faso de son côté a demandé l'aide de la Russie afin de lutter contre le terrorisme. D'autre part, sachez aussi que les Guinéens ont à nouveau défilé en masse jeudi à Conakry pour dire non à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, confronté, on le sait depuis 2 semaines, à une contestation qui a fait une dizaine de morts. Revenons en Tunisie et les Belges. Après l'investiture du nouveau président Kais Saïd, la question se pose, avec qui va-t-il gouverner? Retrouvons Lilia Blaise.
109 députés, c'est la majorité que doit atteindre le premier parti au Parlement, Ennahda, pour assurer un vote favorable à son gouvernement. Il n'a que 52 sièges et doit donc trouver des alliés. Il gère pour le moment les refus de plusieurs partis à participer à son futur gouvernement. L'autre problème repose sur le choix du chef du gouvernement. L'organe décisionnel du parti, le Conseil de la Choura, a décidé de proposer comme candidat une personnalité issue d'Ennahda qui pourrait être le leader actuel du parti, Rached Ranouchi. Mais il était question qu'il brigue plutôt la présidence de l'Assemblée. Pour des partis de l'opposition, comme le courant démocrate, un chef du gouvernement Nahdaoui sera automatiquement refusé par la majorité des députés. Le torchon brûle d'ailleurs entre les deux partis qui avaient entamé des négociations. Elles sont au point mort depuis que le courant démocrate a revendiqué des ministères clés, tels que celui de la justice et de l'intérieur. Ennahda met aujourd'hui en avant l'importance de trouver un accord sur un programme au-delà des personnes, mais avec ce paysage politique très fragmenté et plusieurs oppositions tenaces comme celle du parti au cœur de la Tunisie qui a 38 sièges, Ennahda risque de faire face à un parlement ingouvernable.
Et les BJ, je reprends le titre de votre tract d'hommage Tunisie, la dépression démocratique. Ce qui a frappé les observateurs, comme on dit, c'est la désaffection pour ce scrutin législatif. Forte participation ou relative bonne participation pour l'élection présidentielle, mais forte abstention pour les législatives. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous?
Parce que peut-être, je sais pas, je vais l'interpréter comme ça de manière sauvage, peut-être parce que les Tunisiens ont toujours été axés sur... Il y a eu que des présidents de République, il n'y avait pas de parlement, ça n'existait pas. Donc la culture parlementaire n'est pas encore vraiment... Ils ne croient pas beaucoup, ils ont l'impression que c'est des simulacres, que les députés sont là uniquement pour se chamailler. Donc le sens, la culture parlementaire démocratique n'est pas encore entrée dans... Donc vous voyez, il y avait 80 candidats à la présidence de la République. Donc même ceux... Il y en a eu 26 de retenus. Même ceux qui se disent anti-système, comme Raïs Saïd. En fait, ils ont choisi quand même le cœur du système, qui est la présidence. Donc il y a toujours cette attraction, cette focalisation sur cet homme providentiel qui serait président et qui va tout régler. Il y a toujours quand même ce désir qu'un président va vous... un espèce de salut qui vient par le haut. Voilà. Il y a quand même ça encore dans le peuple.
Et là, il va y avoir, si j'ose dire, l'épreuve des faits, voilà. Parce que tout ce que vous avez dit, par exemple, sur l'islam modéré, sur la laïcité, sur cet islam éclairé, va devoir se mettre au travail, si j'ose dire. Parce que on sait, enfin, je rappelle que Ennahda est le parti qui est sorti gagnant de ces élections.
Disons, un islam sécularisé. Je ne sais pas s'il est modéré, parce que vous savez, la mouvance islamiste, elle a beaucoup de satellites qui ne sont pas dans le parti, qui ne sont pas encartés, mais qui sont très très radicaux. Donc il y a des tas de petites mouvances autour de là, qui sont vraiment extrémistes, xénophobes, etc. Donc on ne peut pas dire vraiment. Donc c'est une mouvance plus qu'un parti. Mais je crois que, en fait, moi je souhaite personnellement que le parti islamiste gouverne à 100%, complètement. Parce que j'ai constaté que le fait que la religion devienne un parti de gouvernement... même s'il y a le spectre d'un clergé d'État qui se mettrait en place pour de nombreuses années, je pense que quand même...
Comme en Iran?
Non, parce que c'est pas une révolution religieuse. Voilà, non, mais c'est pas une provocation, c'est très intéressant, c'est exactement le contraire, puisque Narda n'a jamais été Ils étaient exilés, de toute façon, en prison, donc ils sont venus après. Donc, non, mais ce qui est intéressant, c'est que s'ils gouvernent complètement, et on a vu d'ailleurs, puisqu'ils ont participé aux différents gouvernements, et ils ont gardé le minimum de leur électorat, tous leurs sympathisants se sont enfuis. Eh bien, l'islam, qui va être mêlé à l'action politique, va se profaner, va se disqualifier. Même un ami d'Arush Aïgan, hélas décédé, un très grand penseur, me disait que plus l'islam va vouloir le pouvoir, va être confronté à la promiscuité et aux compromissions du pouvoir, et plus il va se disqualifier dans la conscience des gens. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens séparent totalement leur croyance de l'islam politique. Plus il gouvernera, et plus il deviendra impopulaire. À la limite, voilà, c'est un peu malicieux ce que je vous dis.
Machiavélique, même.
Non, mais je souhaite qu'il gouverne, parce que de toute façon, comment ils vont redresser le pays, comment ils vont sortir tous les problèmes énormes que le Liban a évoqué tout à l'heure, l'incurie, l'administration, la pauvreté, les transports publics, la santé. Comment ils vont faire? D'ailleurs, eux-mêmes ne veulent pas avoir le premier. Eux-mêmes voudraient avoir le second rôle, pour ne pas justement qu'il soit directement cible des critiques populaires.
Hélène Béji, vous notez dans votre texte, il est trop tôt encore pour savoir si la révolution de 2011 a réussi ou échoué. Il va falloir attendre combien de temps, à votre avis, pour savoir?
Bon,
autrement dit, à quel moment sûr que cette révolution a apporté quelque chose au peuple tunisien?
J'aimerais le savoir, mais voilà ce que je pourrais dire pour éclairer un peu les auditeurs français. C'est que finalement, la démocratie est en train de rentrer dans ce que j'appelle une nouvelle forme de démocratie, que j'appelle la néo-démocratie, qui en fait fait progresser les courants sectaires et religieux plus que le progressisme lui-même. C'est-à-dire que le progressisme est en situation d'échec et d'autodéfense. C'est-à-dire, pourquoi nous, les modernes ont perdu, là, les modernistes, entre guillemets, tous les partis laïcs ont perdu? Parce que le progressisme n'a pas su se trouver n'a pas su trouver le discours de son autorité, n'a pas su trouver le langage, n'a pas construit véritablement son discours, alors que les islamistes ont un discours. Les progressistes n'existent que contre. Et vous savez que quand on n'existe que contre, on n'existe pas, on est dans l'ombre de l'autre, on est dans le reflet, dans le miroir, on n'a pas d'existence propre. Donc, la question que je me pose, et c'est pour ça peut-être que les Français ont peur du voile, c'est parce que le discours laïque lui-même est en panne face à des phénomènes que le libertarisme de la société moderne...
C'est-à-dire offre. Le culte de l'individu. Hein.
Oui, le culte de l'individu est peut-être la porte ouverte à des régressions. C'est-à-dire qu'en fait, la démocratie, paradoxalement, peut ouvrir, en quelque sorte, des dynamiques régressives et pas seulement des dynamiques progressives. C'est ça. Alors, comment on peut faire en sorte pour que...
Renverser la tendance.
Voilà, la popularité de certains comportements régressifs, on le voit ici avec certains mouvements, etc. Avec, par exemple, la montée d'un certain racisme ou d'un certain sectarisme musulman aussi. Tout ça, ce sont des comportements régressifs, mais qui sont permis par la démocratie. C'est ça le problème. Et qui sont même exacerbés, exaltés par les médias aussi, qui sont des formes, et par les réseaux, bien entendu, qui sont une sorte de radicalisation, en quelque sorte, de la démocratie.
Donc, il faut être très vigilant. Merci, Hélène Béji. Vous avez écrit « Dommage, Tunisie, la dépression démocratique », un texte publié dans l'excellente collection des Tracts de Gallimard. C'est le numéro 9. Merci et à bientôt.
Merci, à très bientôt.
Une semaine. Inch'Allah, une semaine, si Dieu le veut, comme on dit aussi. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowensky. Je vous rappelle que si vous nous écoutez à Paris et dans la région parisienne, sachez qu'avec l'heure d'hiver, l'émission sera diffusée à 10h10 dès samedi prochain et non plus 9h10. Nous reviendrons à 9h10 avec l'heure d'été. Pas de changement pour vous qui nous écoutez en Afrique. Nous allons vous retrouver demain pour le magazine Idée. Nous parlerons cette fois des scandales et plus exactement de notre addiction en quelque sorte au scandale. Que disent-ils de nous ces scandales? Et nous verrons cela avec deux invités de philosophes, Laurent de Sutter et Jérôme Lèbre. À demain donc, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, nouveau journal sur RFI.